chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. J'ai le plaisir de rencontrer donc le directeur du lycée agricole de Vic, Franck Baucher. Et c'est l'occasion pour nous de l'interroger un petit peu sur sa vision, l'état des lieux de l'agriculture sur le territoire, l'attractivité des métiers autour de l'agriculture pour les jeunes qui s'inscrivent dans le lycée. Et puis aussi, en termes de formation, un petit peu la visée et puis les enjeux qu'il voit pour l'avenir des jeunes. Bonjour Franck et merci.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Benoît Guillard de passer par l'enseignement agricole pour les perspectives et la prospective agricole dans le département des Hautes-Pyrénées et plus largement.
Alors peut-être Franck, commencer par un petit état des lieux, un contexte, le lycée agricole, le nombre d'élèves, les filières en quelques mots.
Alors contexte, comment, au niveau du... Alors quand on dit lycée agricole, hein, on devrait dire établissement, puisqu'on a les trois voies de formation, la formation initiale scolaire, ce qu'on appelle le lycée, la formation initiale par apprentissage, qu'on appelle le centre de formation pour apprentis, et le centre de formation pour adultes, qu'on appelle le centre de formation continue. Donc, alors en termes d'attractivité, j'ai un peu de recul, puisque c'est ma septième année à la direction de ce bel établissement sur les Hautes-Pyrénées. Ce n'est pas parce qu'il est situé à Vic-en-Bigorre qu'il est centré sur la plaine de Bigorre, il est bien centré sur l'ensemble des Hautes-Pyrénées, que ce soit la montagne, les coteaux ou la plaine. Et donc globalement, c'est 400 apprenants en formation initiale, scolaire et apprentissage. Et puis de l'autre côté, une petite centaine d'adultes, sans parler des formations courtes pour adultes. Donc on a à peu près une augmentation depuis 6 ans, depuis 6-7 ans, de 30% quand on compte formation lycée et formation apprenti. Puisqu'on est passé à peu près de 280 élèves et étudiants à 300-310, après avoir monté l'an dernier à 330. Et côté apprentissage, on est passé de 35 à 105. Alors si on veut zoomer sur l'agriculture et sur la forêt, parce qu'il faut pas oublier, ça, on a une bonne résistance et une bonne attractivité sur ces deux types de métiers, que ça soit du CAPA jusqu'au BTS. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Comment on accède au métier de l'agriculture au sens large, et j'ai envie de dire au métier de l'environnement et au métier de la forêt. On y passe par soit la filière professionnelle, donc une seconde ou un CAP, et après seconde pro, bac pro, CAP, PPREA. Donc ça, c'est la première voie. On passe par une seconde générale et technologique et un bac technologique, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Donc on a bien les deux grandes voies, plus professionnelles et plus technologiques. Et quand on est en pro, on peut aller en BTS. Quand on est en technologique, on va en BTS, mais on peut aller plus loin. Et ce qu'il faut avoir en tête, on est très bien reconnu sur la filière pro, que ça soit tant agricole que forestier. Par contre, en général et technologique, il faut rappeler qu'on est comme à l'éducation nationale, mais on prépare le bac techno STAV, et que là, on accuse un recul par rapport à ça. Donc ça, c'est sûrement un manque de communication, parce que derrière, il y a des perspectives énormes.
Alors Franck, une question qui me brûle les lèvres, parce qu'aujourd'hui, partout, on entend la difficulté à trouver des jeunes qui seraient intéressés pour s'installer. Reprendre des fermes ou s'installer en tant qu'agriculteur. Qui sont les jeunes qui viennent dans votre établissement et quel est votre regard justement sur cette difficulté d'attractivité en termes d'installation agricole?
Alors il faut rappeler que sur Vic-en-Bigorre, sur les Hautes-Pyrénées, on est encore bien typé lycée, ce que je veux dire agricole. Ça veut dire qu'on n'a pas, on ne subit pas la désaffection qu'on peut avoir dans des lycées plus urbains. Donc ce que je vous dis, depuis 6-7 ans, donc on a augmenté de 30% les jeunes, notamment dans le milieu agricole, qui veulent s'intéresser au milieu agricole. Et ce n'est pas forcément des fils ou des filles d'agriculteurs. Deux chiffres. Premier chiffre, il y a 30% de filles, 70% de garçons. Donc ce n'est pas 50-50 sur les filières agricoles, mais c'est quand même 30% de filles. Elles sont très prisées parce qu'elles font très attentionnées par rapport au matériel agricole qui coûte maintenant très cher, et elles savent très bien se débrouiller. On n'a plus besoin de forces qui ne réfléchissent pas. On a besoin de forces on a besoin de personnes qui réfléchissent et qui manipulent des engins chers. Et la deuxième chose, c'est qu'on a 75% des gamins qui viennent dans ces formations agricoles qui sont hors cadre familial. Comme je dis un peu trivialement, si on attend que 2,5% de la population agricole se reproduise pour faire le renouvellement des générations, on n'y arrivera pas. Donc on est très attentif que les hors cadres familiaux soient bien en tête que maintenant, si on veut être en agriculture, on n'a pas besoin d'être fille ou fils d'agriculteur pour y être. Et on a besoin de renouveler les générations. Il y a 50% des gens qui vont partir à la retraite, soit en s'installant. Donc on peut s'installer, on peut être salarié, parce que l'agrandissement des exploitations demandera un salariat, soit dans tout ce qui est encadrement et le conseil. Donc on a vraiment besoin de gens du niveau bac pro jusqu'au niveau BTS, licence et ingénieur. Et on a mis en place un nouveau système à la fin du BTS, où il y a un concours qui permet aux jeunes de passer en classe passerelle pour intégrer les écoles agro et véto, parce qu'on a aussi besoin d'agronomes pour l'encadrement de toute la filière agricole, environnementale et forestière.
Franck, deux mots en termes de contenu, en termes de formation, et puisqu'on voit bien que notamment l'agroécologie est un élément un peu plus mis à la lumière des enjeux, des acquisitions en tout cas, le regard sur le vivant, le regard sur... la bienveillance sur ce qui peut être le vivant et au-delà de ça, il y a aussi tout ce paradoxe, ce monde paradoxal entre la nécessité de produire mieux, de produire bien et puis derrière un contexte environnemental et sanitaire très complexe.
Alors effectivement, bien avoir deux choses en tête par rapport à ce qu'on vient de dire. Un, la souveraineté alimentaire. Il faut avoir en tête que la balance commerciale française au niveau agricole et agroalimentaire va potentiellement être négative pour la première année depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, il faut avoir ça en tête. On est autosuffisant qu'à 40 ou 50% dans beaucoup de filières. Donc il y a besoin de produire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et Benoît, vous avez raison, c'est de dire il faut produire propre. Il faut produire propre environnementalement et au niveau des santé des consommateurs. Donc là, l'enseignement agricole, là-dessus, a été depuis une trentaine d'années agriculture durable dans les années 90, puis maintenant agroécologie, plusieurs programmes. On va être au troisième, enseigner à produire autrement, le 1, le 2, et là on va passer au 3, pour faire comprendre aux jeunes que c'est bien économie et écologie qui sont les deux faces d'une même pièce qui permet de faire quelque chose de propre et d'économiquement viable. Alors ça, c'est pas que des paroles. Nous, on l'a mis en application sur l'exploitation agricole et forestière de l'établissement. Pourquoi ? Parce qu'on a un troupeau de vaches laitières qui, il y a encore 4 ans, ne pâturait pas. Tout était amené à l'auge. Et donc là, on a mis en place un pâturage tournant. Donc on diminue les charges, on augmente les produits par rapport à ça. Et on est vers l'autonomie alimentaire, respectueuse dans l'environnement. On est sur zéro glyphosate. On utilise un peu de phytosanitaire quand il y en a besoin, mais on est dans une démarche agroécologique. Et on montre aux jeunes qu'on peut avoir une agriculture et productive d'un côté. On est encore avec des vaches à 9500 kg de lait par lactation. On était à 11500, mais aussi très respectueuse de l'environnement. Donc c'est bien les deux qu'il faut jouer et on est capable de le faire. Et au niveau de la santé financière de l'exploitation, moi j'ai la chance de pouvoir vous dire que les difficultés financières qu'il y avait il y a 4-5 ans, on est de moins en moins en difficultés financières, même dans une exploitation publique. Donc c'est ça qui est très motivant par rapport à ça. Donc moi je vous donne un recul de 7 ans. Tout le travail qui a été fait avec les équipes depuis 7 ans va vers une meilleure économie, une meilleure écologie.
Donc c'est possible, c'est tout à fait possible. Dernière question, Franck, agriculture et énergie, parce que c'est un sujet de plus en plus évoqué, cette dépendance énergétique et la capacité qu'a l'agriculture à fournir de l'énergie verte. Donc est-ce que ce sont des choses qui sont abordées dans le cadre de l'enseignement ? Est-ce que ce sont dans les projets des jeunes des choses qui sont évoquées ? Que ce soit l'agrivoltaïsme ou la méthanisation par exemple, dites-nous quelques mots là-dessus.
Alors l'énergie, avoir en tête une chose, il y a toujours eu, entre guillemets, concurrence entre la production alimentaire et la production énergétique. Moi j'ai une référence, la référence elle est assez simple, c'est que quand vous regardez les schémas des exploitations avant les années 50, vous avez à peu près entre 15 et 20% de l'assolement qui était prévu pour la traction animale, donc qui était prévu pour l'énergie. Donc tant qu'on a des exploitations qui ne dépassent pas la production énergétique à plus de 20% de l'assolement, on est raisonnable par rapport à cette concurrence-là qui existe. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, Benoît vous avez raison, il y a la méthanisation. la méthanisation. Alors, on est bien placé au lycée agricole de Vic, puisqu'on était pionnier dans les Hautes-Pyrénées, il y a 15 ans, pour mettre en place une unité de méthanisation. Alors, la méthanisation, ça marche très bien en injection gaz. Le business plan est rentable. En cogénération, donc en production d'électricité, et on l'a démontré au lycée agricole de Vic, ce n'est pas rentable. Le soutien fiscal qu'il y a sur l'électricité produite par la méthanisation n'est pas suffisant pour avoir un business plan positif. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté la méthanisation cogénération sur Vic. Après, il y a l'agrivoltaïsme. Donc ça, on y réfléchit fortement, puisqu'on est impliqué dans des réflexions sur de l'agrivoltaïsme sur parcelles à pâturage. Et donc ça, à un moment donné, il faut avoir en tête que l'autoconsommation d'électricité par le photovoltaïsme va permettre de diminuer les charges, où vous savez tous que l'électricité a pris, au niveau financier, une augmentation forte. Donc on est aussi là-dessus par rapport à l'énergie. On a aussi une chose, c'est que dans les méthodes et les pratiques culturales, pouvoir diminuer notamment le labour qui permet de consommer moins d'énergie fossile et qui permet notamment d'économiser du travail du sol. Donc c'est vrai pour l'écologie, c'est vrai pour l'économie. Donc là aussi, on est vertueux par rapport à ça.
Ce sera ma dernière question, Franck. On va parler un petit peu de vision. De voir un petit peu quelle vision vous avez. On a entendu par la présidente de la région Occitanie la nécessité de poser vraiment une vision pour l'agriculture de ce territoire, soulignant que jusqu'à ce jour et à sa connaissance, ça manquait fortement de visée et de vision. C'est quoi votre avis ?
Alors la présidente de région a complètement raison dans le sens où il faut donner un cap. Il faut donner un cap par rapport à l'agriculture. Sans cap, on peut vite se perdre et se disperser et ne pas répondre aux objectifs que la société nous demande. La société, elle nous demande quoi ? Un, de produire suffisamment au niveau alimentaire. Deux, de produire à un coût raisonnable. Mais deux, de produire au niveau d'une santé positive. Donc il faut qu'on produise propre, en quantité, et d'un point de vue économique acceptable pour les populations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a la chance en Occitanie d'avoir une pluralité d'agriculture, une pluralité de produits. Et pour produire économiquement viable pour les exploitants, il faut faire de la qualité, il faut faire de la valeur ajoutée. Tout ce qui est de la production générique de produits, du lait de base, de la viande de base, ne rapporte pas suffisamment. Donc il faut être dans la transformation et dans la commercialisation. La présidente de région a raison de dire que là, il faut réfléchir à faire plus de transformation. Vous savez l'appétence que j'ai notamment par un territoire comme l'Aubrac sur le Nord Aveyron. C'est un territoire qui est capable, à partir du lait, d'avoir un business plan très positif et pour les agriculteurs et pour la coopérative, notamment Jeune Montagne, pour produire de l'aligo et de la tome d'aligo et du fromage qui permettent de rémunérer à plus de 550 euros tonnes, plus de 600 euros tonnes le lait au niveau des agriculteurs et faire du bénéfice au niveau d'une coopérative. Donc là, on est typiquement dans quelque chose en valeur ajoutée qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Et le consommateur ne s'y trompe pas. Il est au rendez-vous. La deuxième chose, les produits de meilleure qualité coûtent effectivement un peu plus cher, mais il suffit d'en manger un peu moins, puisqu'ils sont mieux nutritionnellement. Donc globalement, le panier de la ménagère peut, en termes d'économie, être au même tarif, et en termes de santé publique, être plus vertueux. Et en termes de santé publique, notamment je pense à l'obésité, je pense aux maladies cardiovasculaires, être plus vertueux aussi. Donc on a tous à gagner à manger mieux, à manger moins, en rémunérant mieux les agriculteurs.
Nous sommes à la fin de l'émission, Franck. On a bien entendu le passionné que vous êtes, l'homme investi depuis 7 ans déjà auprès des jeunes, nos jeunes, pour faire de cette agriculture, redonner à cette agriculture ses lettres de noblesse et une perspective, une vision. Donc, merci infiniment. Je sais que vous allez changer rapidement de métier, mais bon, je vais vous remercier quand même pour l'implication que vous avez eue auprès des jeunes sur ce territoire et pour la fonction que vous avez portée brillamment. Merci encore, Franck, et puis au plaisir.
Benoît, merci beaucoup de cette interview. Alors, vous me tendez une perche par rapport aux perspectives. Je reste cohérent par rapport à mes valeurs. Vous avez compris que moi, l'agriculture, l'environnement et l'animation du territoire, le développement du territoire me tient à cœur depuis 35 ans d'activité professionnelle. Donc je vais rester dans les Hautes-Pyrénées, qui me tient à cœur. Je vais aussi faire un pas côté Pyrénées-Atlantiques, puisque je vais prendre à partir du 1er mai la direction du Parc National des Pyrénées, où vous avez tous compris qu'il y a aussi un projet complexe à assumer entre la préservation de la biodiversité, la préservation d'une agriculture sur le Parc National, et aussi les activités autres, comme le tourisme. tourisme. Donc on est toujours dans l'idée que, et le parc national des Pyrénées, par rapport à ce dont on parlait là, est fer de lance, puisque dans la marque Pyrénées et notamment dans les produits, il fait partie des deux parcs au niveau national qui sont le plus en avance. Donc il n'y a pas concurrence entre biodiversité et agriculture, mais complémentarité. Et le parc national des Pyrénées fait partie des acteurs de ce territoire, que ce soit les Pyrénées-Atlantiques ou des Hautes-Pyrénées, à œuvrer pour une meilleure agriculture, un meilleur environnement et une activité ouverte vers l'extérieur et accueillante pour les touristes.
Merci infiniment et au plaisir, on viendra vous revoir dans le cadre du parc. Merci Franck, à bientôt.